Mamadou Issoufou, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de La Voix de l'Amérique. 2 ans déjà que vous dirigez le Niger. Avant de revenir sur votre bilan, l'actualité, c'est bien évidemment la guerre au Mali. Près de 3 mois après le début de l'intervention militaire sur place, peut-on dire que le combat contre les djihadistes est gagné?
Bien, je peux dire que le combat est en partie gagné parce que beaucoup de terroristes ont été éliminés. Le nord du Mali est aujourd'hui libéré. Les grandes villes qui ont été occupées par les terroristes et le crime organisé, ces grandes villes sont libérées. Mais comme vous le savez, les terroristes et les trafiquants de drogue vont organiser des actions asymétriques. Ils vont tenter de continuer à faire des attentats. Donc le combat n'est pas totalement gagné, il n'est pas totalement terminé, mais des bons résultats, des résultats très importants ont déjà été obtenus. Il faut saluer réellement l'intervention française à travers l'opération Serval. Il faut aussi saluer l'intervention du contingent tchadien et puis l'intervention de forces africaines de la CEDEAO, dont le contingent du Niger. Ces forces ont fait un excellent travail. Il faut que ce travail-là se poursuive.
Combien de temps l'armée nigérienne compte-t-elle rester au Mali?
L'armée nigérienne restera au Mali le temps qu'il faut. Vous savez, moi j'ai toujours considéré les menaces qui sont présentes au Mali comme une question de sécurité intérieure pour le Niger. Donc organiser la solidarité avec le Mali, c'est défendre la sécurité du Niger. Nous resterons le temps qu'il faut pour que la paix soit ramenée au Mali, pour que la démocratie, parce qu'il ne faut pas oublier que dans quelques mois, il va falloir organiser des élections afin que le peuple malien puisse désigner ses dirigeants, afin qu'il y ait des dirigeants qui ont une forte légitimité dans le pays.
Alors dans cette lutte contre le terrorisme, Niamey accueille sur son sol des drones et 100 de militaires américains. Quelle est leur mission précise?
La mission des forces qui sont dans le Sahel de manière générale, c'est de combattre le terrorisme. Et en ce qui concerne les drones, qu'ils soient américains ou français, l'objectif c'est de recueillir les renseignements. Sans ces renseignements, j'ai coutume de dire que nous sommes aveugles. Donc nous avons une vaste zone, en particulier au Niger, à surveiller. La frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye. De manière générale, il s'agit de surveiller tout l'espace sahélo-saharien. Et je pense que ça se passe très bien avec les renseignements que nous recueillons à partir de ces appareils. Je pense que nous ne sommes plus aveugles et nous pouvons anticiper et puis organiser la riposte par rapport aux menaces qui sont présentes dans la zone.
Et qu'avez-vous obtenu en échange de Washington?
Mais ce que nous obtenons, c'est la sécurité de notre pays. Et nous avons des menaces terroristes, menaces des organisations criminelles. Ces menaces, notre objectif est de les juguler. Et c'est ça, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Il n'y a rien de plus précieux que la sécurité. Et c'est ça, je crois, qui est essentiel, non seulement pour le Niger, mais pour les autres pays de la sous-région. Sans sécurité, il n'y a pas de développement possible. Et c'est pour cela que nous en faisons une priorité.
Autre aide étrangère, Monsieur le Président, celle de la France. Que font les soldats français à Guélal?
Les soldats français, qu'est-ce qu'ils font à Guélal? Qu'est-ce qu'ils font au Mali de manière générale? Vous savez bien pourquoi cette opération Serval a été déclenchée. Nous avons des intérêts à protéger compte tenu de ce qui se passe dans la zone. Rappelez-vous qu'il y a eu une attaque en Algérie à Enamenas, ce site gazier qui a fait l'objet d'une attaque terroriste. Nous avons au Niger des sites stratégiques, en particulier les sites d'exploitation d'uranium. Nous savons que ces sites constituent des cibles pour les terroristes, donc il est tout à fait normal que nous prenions des mesures, que nous anticipions afin de protéger ces sites stratégiques.
Mamadou Issoufou, certains vous accusent de manquer de transparence dans la clarification de toute cette aide militaire occidentale. Quelle est votre réponse?
Non, ce n'est pas une critique fondée. On connaît le nombre précis, on connaît les missions. Il n'y a pas d'opacité dans les relations entre nous et les pays amis, qu'ils soient de la sous-région ou des autres continents, que ces pays soient européens ou américains. Nous gérons nos relations avec tous ces pays-là, avec toute la transparence requise.
Vous avez demandé récemment aux maires nigériens de contribuer à la lutte contre le terrorisme par le renseignement. Pourquoi?
Oui, absolument. Je pense que la première source d'information, la première source de renseignement, c'est le peuple lui-même. Et donc les maires qui sont des autorités décentralisées, qui sont en présence avec le peuple de manière quotidienne, sont une mine d'informations qui peut nous permettre de mieux organiser notre riposte par rapport aux menaces qui existent dans la zone sahélo-saharienne.
Est-ce que vous ne craignez pas que le Niger ne devienne la cible d'attaque des terroristes?
Dans tous les cas, les menaces sont présentes dans les pays autour de nous. Et donc, le Niger prend les dispositions qu'il faut pour anticiper. Jusqu'ici, nous y sommes arrivés. Le Niger reste un îlot de paix et de sécurité dans un environnement qui est très difficile. Nous sommes en train de continuer à prendre les mesures afin de protéger notre peuple, afin de défendre notre territoire.
Est-ce que la réforme de l'armée nigérienne est accomplie?
L'armée nigérienne est une armée solide, c'est une des plus solides de la sous-région. Et aujourd'hui, le contingent que nous avons envoyé au Mali se comporte avec beaucoup de professionnalisme. C'est un contingent qui fait un travail de qualité et cela reflète la solidité de manière générale de l'armée nigérienne. Il est certain que face aux nouvelles menaces, notre armée doit être davantage restructurée, doit avoir davantage les moyens pour faire face aux menaces nouvelles qui se développent de plus en plus, non seulement dans la sous-région, mais dans le monde.
Et quelles sont les nouvelles dont vous disposez concernant les otages français enlevés à Arlit en 2010?
Mais pour l'instant, les seules informations dont nous disposons, c'est qu'ils sont vivants. Il y a eu cette information sur l'exécution d'un des otages, mais je pense que les autres otages sont vivants, seulement on ne sait pas à quel endroit ils sont détenus. Une des préoccupations, c'est de faire en sorte que ces otages soient libérés. Et j'espère que nous y arriverons.
Alors la guerre au Mali, c'est aussi un drame humanitaire. 6 000 nouveaux réfugiés maliens sont arrivés au Niger la semaine dernière. Votre pays, déjà fragile, peut-il faire face à la situation?
Bien sûr, le Niger a besoin davantage d'aide de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Niger fait partie des pays en voie de développement qui reçoit le moins d'aide publique au développement. Or, le Niger a des besoins. Le peuple nigérien a des attentes. Mais nous essayons d'organiser la solidarité avec les réfugiés maliens. C'est vrai qu'au Niger, ils sont plus de 50 000. Il y en a dans d'autres pays de la sous-région. Mais nous partageons le peu de moyens que nous avons avec nos frères maliens. C'est une tradition bien établie au Niger que de s'occuper de ses frères, que de s'occuper de ses voisins. Et nous n'allons pas faillir à cette tradition de notre peuple.
Alors vous le disiez, votre pays reste fragile, 186e au classement de l'indice de développement humain du PNUD. Dernier, est-ce que c'est un constat d'échec?
Non, c'est le Niger, et d'ailleurs le rapport mondial sur le développement humain le dit. Ces dernières années, le Niger fait beaucoup de progrès pour améliorer l'indice du développement humain. Entre 2011 et 2012, nous avons eu une des progressions les plus fortes d'Afrique. Nous avons une progression de l'indice de développement humain qui est largement supérieure à la moyenne des indices des pays de l'Afrique au sud du Sahara. Donc nous sommes sur la bonne voie, surtout que nous avons une économie qui est très dynamique. Nous avons fait un taux de croissance en 2012 de près de 11%. Les années à venir prévoient un taux de croissance qui se maintiendra à 2 chiffres. Donc nous sommes sur la bonne voie et notre objectif, c'est de passer du groupe des pays à faible taux de développement humain à celui des pays à taux de développement humain moyen. Le Niger a les moyens d'y arriver, mais il faut que nous retroussions nos manches, que nous continuions à travailler, que nous maintenions des efforts constants et avec les ressources dont dispose le pays, je pense que cela est à notre portée.
Le risque de famine est-il écarté pour cette année au Niger?
Le risque de famine est totalement écarté. Nous avons mis en place, depuis notre arrivée au pouvoir, ce que nous appelons l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons connu pendant ces deux dernières années des périodes de sécheresse et des périodes d'inondation, mais cela ne s'est pas transformé en famine. Nous avons désormais apporté la preuve que sécheresse n'est pas synonyme de famine et donc nous continuerons à nous battre dans le cadre de cette révolution verte que constitue l'initiative 3N afin que non seulement le Niger puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire, mais nous ambitionnons dans quelques années d'exporter des céréales à partir de notre production nationale.
Monsieur le Président, personne ne conteste votre gestion rigoureuse des deniers publics. En revanche, beaucoup sont déçus concernant la transparence sur la transition qui avait été menée par le général Salou Djibo. Y a-t-il des personnes intouchables au Niger?
Il n'y a pas de personnes intouchables au Niger. Je l'ai dit, personne n'est au-dessus des lois. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on détienne une parcelle de pouvoir ou pas, on est tous sous la même loi. Et nous avons mis en place des structures pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la mauvaise gestion. Et nous obtenons des résultats. La preuve, c'est que le dernier classement des pays, selon l'indice de perception de la corruption, montre que le Niger fait des progrès. Nous avons gagné plusieurs rangs dans le classement.
Mais est-ce que selon vous, toute la lumière a été faite sur la transition?
Mais toute la lumière a été faite sur la transition. N'écoutez pas les adversaires qui veulent diviser les Nigériens en cherchant à focaliser leurs opinions sur un soi-disant audit de la transition. Mais s'il faut auditer la gestion dans notre pays, il faut auditer la gestion de tous les régimes. Et aucune aucune hypothèse, aucun régime ne pourrait être épargné. Et nous sommes en train de travailler sur l'assainissement, comme je vous l'ai dit. Nous avons mis en place une haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et cette commission n'épargne personne.
Ce week-end, des étudiants ont manifesté à Niamey pour dénoncer l'exploitation de l'uranium par Areva dans votre pays. Fin 2012, Niamey a parlé d'un partenariat très déséquilibré. Allez-vous prendre des mesures concrètes ou le géant français est-il trop puissant?
Ben écoutez, ça, par rapport à cette question, notre position a toujours été très claire. Nous voulons avoir un partenariat stratégique avec tous ceux qui veulent venir travailler avec nous, mais un partenariat équilibré, un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit avec Areva ou avec d'autres entreprises originaires d'autres pays. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut que les ressources du sous-sol nigérien profitent au peuple nigérien. Vous venez de dire tout à l'heure que du point de vue de l'indice de développement humain, le Niger est dans une situation très défavorable. Et pour donc améliorer cet indice de développement humain, il faut nécessairement que les ressources du Niger servent au peuple nigérien, servent au développement de l'éducation, servent à la couverture des besoins en santé et des populations nigériennes, qui sont tous des indicateurs d'ailleurs qui rentrent dans le cadre de la définition de l'indice du développement humain. La volonté, je l'ai exprimée à plusieurs reprises, je continuerai ce combat. Le Niger doit avoir plus de recettes, davantage de recettes, que ce soit du secteur de l'uranium ou des autres secteurs, le secteur pétrolier, le secteur de l'or, etc. C'est un combat global que nous devrons poursuivre afin que le Niger tire le maximum de ressources, de recettes, de l'exploitation des ressources naturelles.
Êtes-vous inquiet par le retard de l'exploitation de la mine d'Imouraren qui finalement est repoussée à 2015?
Oui, bien sûr, cela nous a inquiétés, on l'a dit à d'autres occasions, mais nous sommes en rapport avec l'opérateur, c'est-à-dire avec Areva, pour que cette mine soit mise en exploitation le plus rapidement possible, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de nouveau retard encore dans la mise en exploitation du gisement.
À votre arrivée au pouvoir il y a 2 ans, vous parliez de renaissance pour le Niger. Où en êtes-vous?
Alors effectivement, j'ai été élu sur la base d'un programme, le programme de la renaissance. Ce programme a défini des priorités pour le Niger. La première priorité, c'est la sécurité. Et je pense qu'au plan de la sécurité, beaucoup a été fait. Ensuite, la deuxième priorité consiste à établir des institutions démocratiques et républicaines fortes et stables. Là également, nous sommes en train de progresser sur cette voie, dans la mesure où, aujourd'hui au Niger, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Ensuite, nous avons comme autre priorité les infrastructures. Il faut réaliser des routes au Niger, qui est un pays enclavé. Il faut réaliser le chemin de fer afin de faire baisser les coûts de transport. Il faut aussi, au Niger, fournir de l'énergie à faible coût. Nous sommes sur ce point-là en train de progresser également, notamment avec la poursuite des travaux du barrage de Kandaji. Nous avons en projet également la mise en exploitation d'un gisement de charbon pour alimenter une centrale thermique qui nous permettra de produire 200 mégawatts. Donc au plan des infrastructures, là également, les objectifs sont en train d'être atteints. Nous avons comme autre priorité le développement de l'éducation. Vous savez que l'éducation, c'est une des bases sociales du développement. À ce niveau-là, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures. Nous avons procédé à la formation de beaucoup de formateurs, de beaucoup d'enseignants, afin de relever le taux de scolarisation, que ce soit au niveau primaire ou aux autres niveaux, y compris au niveau universitaire. Nous avons fait des progrès également dans le domaine de la santé. Nous avons fait des progrès dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Globalement, je suis satisfait des résultats obtenus en 2 ans dans la mise en œuvre du programme de renaissance. Et la mise en œuvre des activités dont je viens de parler a permis de créer des milliers d'emplois, notamment pour les jeunes.
Au vu de tous les défis du Niger, est-ce qu'un mandat présidentiel sera suffisant?
Non, un mandat présidentiel n'est jamais suffisant. Les efforts qu'il faut faire au Niger, comme dans beaucoup d'autres pays africains, doivent porter sur plusieurs décennies. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun qui arrive à avoir le mandat du peuple fait pendant donc le temps qui lui est imparti ce qu'il peut, quitte à ce que d'autres poursuivent la tâche, quitte à ce que d'autres puissent poursuivre la mission. Moi, je me suis engagé pour 5 ans pour réaliser un programme précis. Je pense que je le réaliserai. Et voilà. Je n'ai pas dit que ce programme va régler tous les problèmes du Niger. J'ai fait des promesses précises. Ces promesses précises ne règlent pas tous les problèmes du Niger, mais en les réalisant, ça permettra d'avancer, de progresser vers les solutions qu'il faut pour répondre aux attentes du peuple nigérien.
Alors, pourriez-vous briguer un nouveau mandat?
Ça, c'est prématuré. Pour l'instant, je me concentre sur le mandat que le peuple m'a confié. Je ne peux pas à la fois penser au futur mandat et travailler convenablement pour le mandat présent. Pour l'instant, je me concentre sur la tâche que le peuple m'a confiée à travers la dernière élection sur la base du programme de renaissance. C'est ça ma préoccupation essentielle.